savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
C'est un empire, ce sont même plusieurs empires, forgés dans le sang, l'argent et les divisions, composant une histoire de bruit et de fureur. On a célébré cette année nombre d'indépendances africaines, mais qu'en est-il des récits, des représentations visuelles de la colonisation ? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
L'empire colonial occidental, particulièrement en Afrique subsaharienne, est-il la terra incognita du cinéma et de la télévision? C'est ce qu'écrivait il y a quelques semaines notre confrère Thomas Sautinel dans le quotidien Le Monde. Et la question se pose en effet du manque flagrant de fiction. Une série, Our Wishes, disponible sur TV5 Monde Afrique, comble un manque, tout du moins pour le Cameroun. Nous sommes en ligne avec son auteur, le réalisateur Jean-Pierre Bekolo, en direct de Yaoundé. Bonjour.
Bonjour.
Étaient réunis ce 12 juillet 1884, à la factory de Belltown, pour la signature du traité germano-douala, Nachtigal, Buchner, Schulz, Edward Warman, Edward Schmidt, Voss, King Bell, King Akwa, Jim Ekwala et tous les chefs de Douala Town.
Je n'ai qu'une seule parole. Ma seule exigence, c'est de signer comme King Dido, c'est tout.
Là, vous allez changer complètement l'ancien ordre social.
Qu'est-ce que tu croyais qu'on allait faire ici ?
Ekwala est toujours le sous-chef de King Akwa. Là, tu vas faire de lui son égal.
Nous, sous-signés, les rois et chefs indépendants du pays appelé Cameroons, situé sur le fleuve Cameroon River, entre les rivières Dimbia au nord et Kwakwa au sud et jusqu'à 4 degrés sud de latitude nord, avant, au cours d'une assemblée tenue aujourd'hui dans la factory allemande sur le rivage du roi Akwa, décider volontairement ce qui suit.
Mes amis,
ainsi commence le premier épisode, il y en a 10 au total, de la série Our Wishes. Our Wishes qui revient sur les prémices de la signature des accords de Douala. Nous sommes en 1884, à la veille de la conférence de Berlin et du partage de l'Afrique par les puissances coloniales, parmi lesquelles l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France bien sûr, la Grande-Bretagne, mais aussi l'Italie, la Russie ou la Suède. Alors au Cameroun, les chefs Douala sont divisés face au projet de traité d'annexion allemande et ils vont formuler des souhaits. Alors Jean-Pierre Bekolo, au départ j'ai lu que vous aviez le projet de faire un film et puis vous avez changé, vous en avez fait une série. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la forme sérielle? Est-ce que c'est une nécessité économique ou finalement il y avait tellement de matière que ça se prêtait plus à un projet au long cours?
D'abord, on dit que the media is the message. C'est-à-dire que c'est McLuhan qui disait ça. C'est-à-dire que, en fait.
Le médium, c'est le message.
Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait épouser, que le médium épouse, évidemment, le contenu. Je me suis demandé comment raconter cette histoire-là et à qui la raconter, en fait. Évidemment, la série est beaucoup plus quelque chose qui est censé revenir, donc éduquer. Et aussi, elle devait entrer dans les familles, c'est-à-dire que la télévision, la série, on la regarde à la maison. C'était l'idée de dire, ce contenu est plus approprié pour une série que tout simplement un film qui a son parcours, qui est diffusé une fois, et puis voilà, quoi. Donc, le côté récurrent de la série, je le trouvais intéressant.
C'est la première fois, Jean-Pierre, que cette histoire-là, très précisément, de la façon dont les chefs hein, de Douala ont livré le territoire, si je puis dire, hein, à la puissance, à la Prusse, hein, en 1884, c'est la première fois que cette histoire est représentée au Cameroun ?
Oui, c'est-à-dire que nous sommes tous très ignorants de comment tout ça s'est passé. Et la naissance, disons, de cet État reste pas n'est pas racontée ni dans les livres d'histoire vraiment, encore moins au cinéma ni à la télévision. Évidemment, il y a des textes, il y a des travaux, mais ça reste de l'ordre de la recherche en fait. Hein. Donc, il était important de commencer, d'ouvrir, disons, ce chapitre-là, du moins ce projet de raconter l'histoire. Et vous évoquez la conférence de Berlin. Ce qui est vraiment, pour moi, très, très intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que les chefs Douala, dont les chefs camerounais, avaient d'abord écrit à la reine d'Angleterre.
À la reine d'Angleterre.
Pour se mettre sous la protection de la reine. Et elle n'a pas répondu à temps. Et les Allemands se sont présentés. Et les conflits dont vous parlez, les conflits, l'un des conflits est qu'un des chefs disait d'attendre la réponse de la reine. Et qu'il ne fallait pas tout de suite signer avec des Allemands qui, eux, étaient pressés parce qu'il y avait la conférence de Berlin qui arrivait.
Vous, Jean-Pierre Bécolo, vous disiez tout à l'heure que c'est une histoire qui est peu ou voire pas enseignée à l'école. Vous, de vos études au Cameroun, qu'est-ce que vous en saviez de cette histoire quand vous aviez 15 ans, 20 ans, 25 ans ?
Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a quelques lignes. On sait que, justement, évidemment, les chefs Douala signe un traité en 1884 avec les Allemands. Et puis, il y a comme un saut. C'est-à-dire que le personnage principal du film, c'est le roi Bel, qui est vraiment le personnage autour de qui le traité va se signer. Et il y a comme un saut. Son fils, on n'en parle pas beaucoup. Et nous, on entend pas son petit-fils, Manga Bel, qui est pendu par les Allemands. Donc, dans notre imaginaire, dans notre récit national, nous avons plutôt l'histoire du petit-fils. Donc d'ailleurs, quand je tournais la série, tout le monde pensait que c'était l'histoire de Rudolf Manga Bel. Donc c'est pour dire que il y a deux générations comme ça, complètement inconnues, dont nous avons grandi sans aucune idée de comment ça s'est passé.
S'il est vrai qu'on fait un film souvent pour le voir, pour en être le premier spectateur, hein, en tout cas c'est la démarche de nombre de cinéastes. Vous, est-ce que c'est le cas, Jean-Pierre Bécolo, pour ce film, enfin cette série, est-ce que justement c'est ce que vous auriez, est-ce que ces images elles vous ont manqué quand vous étiez plus jeune?
Bah oui, moi, cet univers est très plaisant d'ailleurs. Moi, j'aime bien ces personnages qui sont un peu des personnages un peu comme dans les films western aussi, mais mélangés avec la culture africaine. Ils ont des noms d'emprunt, des pseudos un peu anglais qu'ils mélangent avec leurs noms.
Il y a King Bell, donc, Lok Prizo.
Voilà, oui. King Bell. Voilà, ils s'appellent un peu avec ces petits noms et leurs costumes parce que c'est un peu une espèce de mode bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tradition africaine, il y a beaucoup d'accessoires occidentaux. Et puis, bon, dans le film, il parle français, mais apparemment, il parlait une espèce de pidgin anglais, comme ça. Et puis, c'est un peu un no man's land, hein, c'est-à-dire que les armes circulent, ils n'ont pas de chevaux, ils ont des pirogues, puisque ça se passe à Douala, autour du fleuve Louvouri. Bon, je trouve que cet univers, d'abord, qui donne un peu des frissons, parce que c'est l'histoire de la naissance de ce pays, avec évidemment des personnages très très forts. Je trouve que quand on n'a pas ça, on n'a pas vraiment une idée de ce que c'est ce pays en fait, de ce que c'est la colonisation, de ce qu'ont été les premiers Camerounais entre guillemets, puisque c'est une invention, une création allemande quand même. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un pan de notre vie en fait, de notre existence, de notre histoire, qui évidemment, comme vous dites, nous manque beaucoup.
Une pause musicale, une nouveauté de l'automne, c'est Kim Burrows avec Back on My Feet.
I know I've been there before, but I ain't sorry, it's plain to see. I just let go, this time for sure, and in the blink of an eye. And yeah, I made my mistakes, time to escape. I'm gonna give it a try.
breathe. I just let go, out on my own. Watch me enjoy the ride. And where the twists and the turns, I'm gonna learn. I'm the only one to decide.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Beccolo, le réalisateur de la série Our Wishes.
Quoi, c'est tout ?
Eh oui, c'est tout.
30 crus. Et les 50 crus que tu me dois, tu me les amènes quand ?
Quels 50 crus ?
Les autres 50 crus que tu me dois.
Moi, je te dois. Moi, depuis quand ?
Mais depuis quand ? Depuis que tu m'as signé cette reconnaissance de dette.
J'ai signé 30 crus seulement.
Mais regarde, c'est bien écrit 80 crus. Et tu as signé.
J'ai signé 30 crus, c'est tout. Si c'est 80 crus, c'est que ce n'est pas pour moi.
Mais c'est bien écrit là.
Vas-y avec ce qui est écrit là au diable.
Quoi ? Tu m'insultes ? Illettré, sale nègre.
Ah bon ? Parce que je ne connais pas...
Alors on entend un extrait de l'épisode 2, du deuxième épisode, donc de Our Wishes, Jean-Pierre Beccolo. Le représentant allemand, il utilise une arme de la dette en fait, pour faire plier certains chefs Douala.
C'est-à-dire que, justement, Lockprise, dont les gens de Bonaberry, qui donc ont été donc contre le traité et qui ont résisté contre cette signature du traité, se sont vus un peu comme ça, soumis à une espèce de traitement, puisque tout le monde empruntait, il y avait entre l'alcool et puis eux, ils vendaient de l'huile de palme, bon, il y avait tout un business qui se faisait, et les chefs étaient d'abord des businessmen avant tout. Et de l'autre côté, les Allemands avaient des comptoirs, donc c'était des comptoirs coloniaux dans des magasins. Et là, en l'occurrence, dans cet extrait, c'est Edouard Schmidt, qui est donc le représentant de la firme Warman, et c'est lui d'ailleurs à qui on a demandé de faire signer le traité au chef. Donc c'était un jeune de 24 ans qui s'est retrouvé là et qui donc devait user de son commerce, de sa relation avec les Camerounais pour justement les amener à signer le traité. Et la dette, vous évoquez la dette comme dans cet extrait, mais il y a aussi eu la corruption tout simplement parce que les chefs ont reçu de l'argent donc pour signer le traité.
C'est ce que vous appelez le dash, c'est ça?
Voilà, exactement, c'est le dash. En pidgin English, c'est comme un cadeau. Et voilà, donc oui, il y a eu une somme qui a été partagée et l'histoire dit que le King Bell, qui est pour moi un peu la figure du dictateur, parce que le dictateur naît du colonialisme, hein, c'est ce qu'on découvre en fait. En cette série aussi.
C'est ça qui est passionnant dans votre série. Hein. Pardon de vous interrompre, Jean-Pierre,
non,
mais que vous montrez effectivement que la violence, finalement, elle est également partagée dans cette guerre ce processus de colonisation. C'est-à-dire que la responsabilité en fait des chefs locaux, elle est autant montrée par vous que la responsabilité du colonisateur lui-même. Et effectivement, en la voyant, on se dit que effectivement, on y voit forcément la relation avec les régimes prédateurs africains d'aujourd'hui.
Bah oui, c'est évident. J'ai l'impression que nous n'avons pas appris du colonialisme. En fait. Nous n'avons pas tiré les leçons du colonialisme. C'est-à-dire que ça aurait dû être une espèce d'étude comme ça qui nous permet à mieux comprendre comment tout ça s'est passé et à mieux définir la relation aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Donc, on voit bien comment, justement, le jeune Allemand se sert de cette figure charismatique, donc King Bell. Il y a qu'à lui qu'il vend des armes à un moment donné, parce que lui-même ne se sent pas à la hauteur en fait. Hein, donc il doit absolument se servir de ce puissant chef pour justement amener les autres à signer le traité. Et c'est à lui qu'il donne le dash, c'est-à-dire que l'argent de la corruption n'est pas distribué par les Allemands. Il est donné au King Bell, qui lui maintenant n'a pas partagé, n'a pas redistribué, et ça n'a pas dérangé les Allemands. Parce que son rêve à lui, c'était de s'acheter un bateau à vapeur. Donc vous voyez tous les goûts de luxe des dictateurs aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc il voulait s'acheter un bateau à vapeur comme les Allemands. Et il va même expliquer aux autres chefs qu'il réclame l'argent, que non, ce bateau nous servira tous. Donc vraiment, acceptez que je ne vous donne pas l'argent, quoi. Bref, donc ce personnage est très intéressant parce que il permet de voir comme ça toutes les dimensions. Et en face de lui, donc son antagoniste, c'est Locke Priseau, qui donc lui refuse de signer le traité. Et le paradoxe, bon, d'abord c'est un parent à lui, mais il a traversé, ils sont installés un peu de l'autre côté du fleuve, et il ne veut pas signer le traité d'abord parce qu'ils doivent respecter la parole qu'ils ont donnée à la reine, enfin
la reine d'Angleterre,
qu'ils ont envoyé à la reine d'Angleterre. Puis par la suite, il s'insurge donc par rapport à tout cet argent, à toute cette corruption, et donc se radicalise et devient le résistant contre le colonialisme allemand. Donc Locke Priseau donc est donc disons l'antagoniste un peu comme ça de la série, et là-bas il va subir donc à Boulanger, ils vont subir par exemple en plus de la dette la dévaluation. C'est-à-dire que comme c'est l'huile de palme qui est la production disons référence le produit référence comme ça dans leur monnaie qu'ils appellent écrou là. Donc à un moment donné, on vient leur annoncer que on n'achètera plus le lit d'huile de palme à tel prix, ce sera plutôt tel autre prix. Parce que, soi-disant, l'Europe connaît des problèmes, enfin, etc. Donc, juste pour dire que tous ces éléments que les Africains découvrent après les indépendances, le FMI vient nous faire pression autour de la dette.
Oui, ce qu'on appelle les formes du néocolonialisme, en fait, c'est ça que vous montrez, c'est que les prémices, elles existaient dès les débuts,
voilà.
En fait.
Donc, et c'est ça qui m'a moi-même surpris, c'est-à-dire que je découvre que notre société n'a pas tellement changé, hein, finalement. C'est donc on n'apprend rien, c'est-à-dire que nous tournons un peu en rond. C'est un peu ce que je ressens. Bon, évidemment, des deux côtés aussi, c'est-à-dire que... Mais moi, je prends le point de vue plutôt camerounais. C'est-à-dire que je me dis, comment se fait-il qu'on répète les mêmes choses dans la relation que l'Afrique avec l'Occident? Enfin, moi, j'ai le sentiment juste que... on aurait pu produire une société beaucoup plus agréable que celle que nous avons, hein, avec tous ces éléments, puisque c'était pas si polarisé que ça. Même si l'Allemagne, à un moment donné, va user de la force, c'est-à-dire qu'ils vont bombarder Bonaberry, par exemple, hein, parce qu'ils vont envoyer des canons et tout. Mais il y avait toujours la négociation, et ils ne l'auraient pas fait si... les King Bell, par exemple, ne leur avaient pas demandé. C'est-à-dire que je trouve que la relation est beaucoup plus humaine, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi polarisée que... bon, peut-être que c'est la force de la fiction et de la série, contrairement à un documentaire qui est beaucoup plus dans les événements, les faits, et qui polarise un peu plus la relation et la rend un peu manichéenne, en fait, finalement.
Jean-Pierre Bécolo, l'un des grands mérites de Our Wishes... de mon point de vue, c'est sa précision. C'est la précision extrême de l'écriture et puis la précision, bien sûr, que vous permet le temps long de la série. J'aimerais savoir, parce que cette série, vous l'avez co-écrite, j'aimerais savoir comment vous l'avez abordée. Je crois aussi que cette série, elle vient d'une rencontre que vous avez faite en 2004 avec une femme que vous qualifiez d'extraordinaire, Karine Oyono.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'étais en train de tourner mon film Les Saignantes, et puis je suis à l'hôtel, et puis une des dames à l'accueil me dit, nous avons une tante qui dit qu'elle écrit des scénarios, est-ce que tu pourrais venir voir ce qu'elle fait? J'ai dit, ok, bien sûr, je vais aller voir et tout. Et puis la tante en question, c'est une Allemande qui est au Cameroun depuis 50 ans, qui vivait en brousse dans un village parce que elle a perdu sa nationalité allemande, parce qu'elle a travaillé pour l'administration camerounaise, et donc elle avait écrit 2000 pages. Donc 2000 pages de cette histoire, et quand je lui demande pourquoi, parce qu'elle est ingénieure, donc normalement, et elle me dit non, parce qu'elle voulait que ses petits-enfants, qui sont maintenant camerounais, aient une idée de d'où ils viennent et comment ça s'est passé, et qu'elle pense que avec tous les héros qu'il y a, c'est un peu stupide qu'ils regardent que des héros américains dans les films, quoi. Donc, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait écrit... Bon, d'abord, elle a appris à parler français au Cameroun, donc du coup, ces dialogues sont assez... intéressant parce qu'ils sont du coup digestes, ils sont pas intellectuels, ils sont pas, donc c'est très proche en fait de la réalité. Et puis autre chose, c'est que elle a une qualité, bon, comme elle n'est pas cinéaste ni scénariste, elle répète beaucoup les choses, ce qui est bien, vraiment ça a aidé beaucoup justement dans le format de la série. Bon, malheureusement parfois elle avait trop de personnages dont on s'y perdait, donc il y avait aussi certains défauts, mais toujours est-il que sur le principe, avoir 2000 pages de contenu, bon, où elle avait quand même fait des recherches, puisque elle lisait l'allemand gothique, donc l'allemand ancien, et elle a pu entrer aux archives nationales au Cameroun et trouver des textes dans cet allemand gothique et qu'elle a pu retranscrire. Donc, c'était quand même un matériau, parce que c'est grâce à ce matériau-là qu'on a pu faire ça. Comment écrire une telle histoire? Bon, après, ça a donné l'élan, et puis après, nous-mêmes, on a compris, on peut faire plus. Mais juste pour dire que s'il n'y avait pas eu ce texte de Madame Oyubno au départ, je ne pense pas qu'on aurait pu faire la série.
Akouma Ndoumbé, il est temps d'arrêter de réagir après chaque manigance de Ndoumba Lobé.
Que me veux-tu, femme? C'est ton criminel de mari qui t'envoie?
Ouais, écoute-nous d'abord. Nous avons une stratégie.
Vous n'avez plus rien à faire dans la cuisine ou quoi?
Ndoumba Lobé doit céder le trône à son fils, même s'il faut l'y obliger. Tu as dit au chef de se pencher sur les problèmes que les Allemands causent ici depuis leur arrivée. Alors, convoque-les et qu'on n'en parle plus. Djebodi.
Yeye, tu penses comme moi?
Moi, je penche sur les beaux.
Non, le Ngondo.
Le Ngondo est un tribunal des juges que tout le monde connaît. Et tu sais bien que Kimber fait peur à la plupart qui n'oseraient pas réagir. L'Egbo est plus indiqué. Surtout que beaucoup ne savent pas qui se cache derrière les masques. Et donc, ils peuvent aisément trancher sans peur. Yongela me dit.
Otengen.
Jean-Pierre Bekolo, qui parle là? C'est un dialogue entre deux femmes.
Oui, donc il y a la femme donc du King Bell. Ce qui est intéressant, du roi belge, sa première femme, il a eu des centaines de femmes, et la femme de Lord Prizo. Donc c'est un peu les deux ennemis, les deux frères ennemis, disons. Et c'est leurs femmes qui sont en train de parler. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, la reine mère, en fait, la première femme de King Bell, a un fils. Un fils qui est brillantissime, qui a déjà étudié à Bristol avant l'arrivée des Allemands. Donc, un intellectuel. Et elle ne comprend pas pourquoi son fils n'écarte pas son père, puisque son père est à l'origine du conflit aujourd'hui entre tous les Douala.
Et donc, ce sont les femmes qui vont suggérer d'utiliser l'Egbo, de faire appel à l'Egbo.
Oui, parce qu'il y a deux tribunaux traditionnels. Le Ngondo, c'est un tribunal populaire, donc il est aussi au vu aussi de tout le monde. Et l'Egbo, c'est un tribunal secret. Donc, on ne sait pas qui juge. Et vu le pouvoir de King Bell, très peu auraient le courage de voter pour son... Parce que le Ngondo peut te condamner à mort, et on va exécuter la sentence. Donc, très peu auraient le courage d'affronter ouvertement King Bell et de le condamner à mort. Voilà pourquoi elle suggère qu'on le juge plutôt par l'Egbo, qui est un tribunal secret, on ne sait pas qui juge.
Alors ce qui est frappant du coup dans Aouéchez, c'est que Jean-Pierre Bekolo, c'est que vous explorez donc cette histoire très très largement méconnue de la signature des accords de Douala sous tous ses aspects, y compris l'aspect intimiste et y compris aussi le rôle des femmes.
Est-ce que ça a été documenté, ça, ou est-ce que c'est une invention, une licence artistique?
Bon, c'est vrai que c'est une invention. C'est-à-dire que tout était réuni pour que ce soit le cas. Malheureusement, dans les archives, vous verrez jamais cette partie-là. Vous ne verrez jamais les émotions. D'ailleurs, les femmes sont totalement écartées très souvent. Du coup, au vu de ce qui se passe, il y avait quasiment, à mon avis, des conflits implicites. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir quelqu'un comme Auguste Manga Ndoumbé, qui est le fils du King Bell, donc du dictateur, lui qui est brillant, lui qui est apprécié de tous, qui et en relation avec son ennemi, qui est son oncle, en fait, puisque l'autre est le cousin ou l'oncle de King Bell. Donc, il est vraiment la personne indiquée pour, justement, ramener la paix. Donc, ça, c'est documenté. Bon, maintenant, la conséquence directe de ça, c'est que on ne comprend pas pourquoi elle ne le fait pas. Et donc, on a créé ce personnage féminin, donc de la reine mère, pour que, justement, elle puisse porter cette évolution naturelle, Donc, et maintenant, l'autre chose, on a quand même un peu d'informations sur la relation que Locke Prizo avait avec sa femme, mais on s'est dit, ce serait pas mal que les femmes, puisqu'elles jouaient souvent ce rôle, mais sauf que les historiens ne documentent pas toujours ces aspects-là, elle essaye de rentrer dans l'histoire et qu'elle, on leur donne un rôle qui, je pense, était là. Bon, maintenant, on n'a pas les preuves de cette affaire-là.
Alors, le rôle des femmes dans la colonisation ou dans sa résistance, c'est ce que l'on retrouve dans l'un des rares longs métrages existants sur cette période du 19e siècle, c'est Saraounia de Med Hondo.
C'est la fin du 19e siècle. À Berlin, les puissances occidentales s'étaient partagées l'Afrique. De toutes parts et partout, Français, Italiens, Anglais, Allemands, Portugais, Espagnols et Belges investissaient le continent africain.
De Saraounia de Med Hondo, un long métrage sur la résistance de la reine à la Saraounia du village de Lougou au Niger lors du passage de la mission d'exploration Voulet-Chanoine. C'est vraiment l'un des rares exemples d'un film qui se penche sur cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Bécolo.
Ou... Très bien, oui, ouais. C'est un film magnifique. Je l'ai vu il y a longtemps et c'est vraiment, il n'y a pas eu équivalent à ce jour.
Oui, c'est ça, il n'y a pas d'équivalent, c'est que l'histoire, bon, c'est traditionnel, c'est presque, je vais enfoncer une porte ouverte, mais évidemment, l'histoire est souvent ou toujours écrite du côté des vainqueurs, mais même l'histoire des guerres coloniales, de la représentation, même, ça n'existe quasiment pas, en fait, c'est un impensé, je ne sais pas, c'est le... Un refoulé.
Évidemment, quand on connaît un peu ces sociétés africaines, quand on commence à les regarder de près, c'est évident que les femmes ont un rôle. Donc, même si maintenant, ce que nous avons comme document, c'est les rapports, les témoignages, les récits de colons, qui eux, justement, n'avaient pas accès à ces femmes-là. Ils y traitaient avec ces hommes qui venaient là, avec qui étaient des chefs, et qu'au final, les récits qu'ils produisent sont biaisés, puisqu'ils n'ont pas toute la vision de ce qui se passe dans la société. Il y a un sociologue camerounais qui a écrit ce livre il y a très longtemps, Henri Ngoa. Non, la femme africaine n'était pas opprimée. C'est-à-dire qu'il, justement, essaye de montrer, justement, le rôle des femmes dans ces sociétés-là et qui n'étaient pas connues.
L'histoire, plus généralement, parce que là on évoquait Saraounia de Med Hondo, vous disiez c'est un des rares films, l'histoire de la colonisation reste encore à écrire, à représenter. Bon, vous êtes emparé évidemment de, parce que vous êtes vous-même camerounais, Jean-Pierre Bécolo, de l'histoire de votre pays, mais c'est quelque chose que Elisabeth vous demandait tout à l'heure si ça vous avait manqué, mais même d'une façon plus générale sur la colonisation en Afrique subsaharienne, c'est quelque chose, ce sont des images qui manquent, des images manquantes au-delà du Cameroun.
Je pense que c'est d'abord la décision de dire que nous allons regarder ce qui s'est passé. Les images, moi j'appelle ça ces images un peu diagnostiques, c'est de la radiologie, c'est du scanner, c'est montrer le problème, montrer la maladie, montrer ce qui a mal tourné, montrer. Bon, donc l'idée c'est que il faut regarder. Donc nous n'avons pas, nous ne prenons pas ce temps, nous ne produisons pas ces images-là. Nous sommes dans une fuite en avant, mais en même temps, avec, pour moi j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant, deux en arrière, puisque quand on remet les choses en perspective, on a l'air un peu d'être pas intelligent, puisque quand on voit ce qui s'est passé il y a déjà plus de 200 ans et on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se demande si avant c'était pas beaucoup plus intelligent que ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons par exemple au Cameroun ces histoires de crise anglophone, francophone, mais si on avait compris exactement ce qui s'était passé, je pense qu'on serait très loin de ce genre de conflit.
Alors, Jean-Pierre Bécolo, les recherches, parce que vous disiez que vous étiez appuyé, en fait, sur le récit de 2000 pages de Karine Oyono, qui sait lire l'allemand gothique, qui est allé aux archives, qui a vu les documents, et vous qui dites que vous parlez des personnages, vous parliez de leurs habits, de leurs accessoires, vous aussi, vous avez fait des recherches précisément, parce qu'il y a quelques photos que l'on peut trouver si on tape King Bell sur internet ou Locke Priso, on voit, et d'ailleurs vous avez presque repris le pagne, c'est ça le...
Oui.
Quelle recherche vous avez faite?
Oui, c'est ça, déjà il y a beaucoup de photos sur internet. Bon, nous avons quand même aussi interrogé, parce que le récit de Madame Oyono se focalise un peu sur les Belles, mais il y a plusieurs clans. Il y a par exemple les Akwa. Les Akwa, qui sont le King Akwa, qui était quasiment aussi puissant que King Bell, par exemple. Mais là, elle n'en parle pas beaucoup. Bon, nous avons dû aller interroger quelques personnes. Bon, évidemment, c'est des récits, bon, on en a plusieurs. On tirait un peu ce qui nous intéressait finalement. On faisait des croisements, mais c'était pas forcément. On n'a pas une ambition d'historien en tant que tel. Hein. On cherchait des événements, des personnages. Bon, et puis les accessoires. Comme qu'est-ce qui était important bon, parce que évidemment, ils valorisaient beaucoup les vêtements, parce que c'est toutes ces choses qui étaient importées.
Les c'était armes, un peu des exemple. Sapeurs avant l'heure, non
ben, voilà. Ah, oui, sauf que parfois, ils mettent une belle veste, un pain, et puis ils sont pieds nus.
Bon. Oui, King Bell, dans la King Bell, par exemple, il a un haut de forme. Je m'étais demandé si c'était une trouvaille, justement, d'artiste pour symboliser, mais non, ce que vous dites, c'est que ça correspond à une réalité historique.
Oui, bon, en même temps, nous, on a déliré aussi, hein, on a compris comment ça se passait, et on s'est mis à faire nos propres styles, en fait, et ces mélanges-là, produisait finalement une Afrique beaucoup plus intéressante que ce qu'on a aujourd'hui. Je trouve que et ça se passait beaucoup sans complexe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément le sentiment d'être inférieur, parce que quand on se rencontre au début, il n'y a pas de complexe d'infériorité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin du moins ça c'est mon sentiment, c'est-à-dire que quand le personnage d'Auguste Mangandumbe, qui est donc le fils de King Bell, qui a déjà été à Bristol, c'est lui qui à chaque fois va voir les Allemands pour leur dire qu'ils exagèrent. Hein. Et eux, ils écoutent parce qu'ils sont intimidés, parce que lui, il a été à l'école. Pas eux, les Allemands, forcément. Donc, je trouve que c'est une époque très intéressante qui aurait pu inspirer, pour moi, un monde, en fait, africain d'aujourd'hui ou de demain, en fait.
Qu'est-ce que ces gens veulent encore de nous ?
Ils ont pris le consul au mot. Ils ont rédigé un document dans lequel ils ont recensé leurs souhaits, comme il leur avait conseillé. Et ils prennent ça comme condition pour la signature de leur traité.
Ces gens ont trop été en contact avec les Européens pour comprendre l'importance de la paperasserie. Si c'était au Gabon, ils se seraient contentés de nous regarder comme des moutons.
Eh bien, vous n'êtes pas au Gabon. Ici, vous avez affaire à une racaille plus rusée que Maître Renard de la fable.
À malin, malin et demi. On signe, on empoche. Et dans un an, qui s'en souviendra ?
Détrompez-vous, Foss. Peut-être que d'ici 20 ans, un de ces gars-là va se réveiller pour se référer à ce texte. Aussi longtemps qu'un des rédacteurs restera en vie, le texte restera présent dans leur cervelle.
Comment ? Des nègres avec une cervelle ?
Ne les sous-estimez pas.
Premier point, ils veulent le monopole du commerce avec l'arrière-pays. Deuxième point, ils sont toujours en contradiction avec ce qu'ils nous ont toujours demandé. Ils veulent l'annexion et non plus la protection.
Est-ce qu'ils savent même ce que ça veut dire ? Si Mangabel était là, peut-être saurait-il de quoi il s'agit, mais... Mitom, je ne crois pas qu'ils connaissent la différence.
De toute façon, ça peut nous sauver. L'article sur leur tradition de mariage, ça on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Les terres agricoles, ils répètent déjà ce qui figure dans le traité. C'est déjà résolu dans l'autre texte.
Voilà, Jean-Pierre Bécolo, là, on a une lecture hein, des vœux, des souhaits des chefs d'Oula. C'est « Our Wishes ». C'est ce qui explique le titre de votre série, Jean-Pierre Bécolo.
Oui, c'est-à-dire que il fallait dire qu'en fait, c'était pas juste des Africains qui ont signé tout ce qu'on leur avait présenté, malgré le fait que finalement ce texte n'a pas été respecté par les Allemands. Mais il fallait quand même dire qu'ils ont, ils avaient une vision, en fait, de la relation. Ils avaient une vision de comment ils voulaient vivre avec les Allemands. Ils avaient une vision de comment devait être, disons, si on peut appeler ça la colonisation, en fait.
Et donc, ils avaient une vision qui n'a pas été respectée. Mais donc, ce que ça signifie aussi, c'est que votre série, vraiment, elle met en scène, effectivement, toutes des séries de liens très complexes. Et comme vous disiez, pas polarisées. C'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les blancs, en gros, hein, pour simplifier, des Allemands et des blancs méchants. Et de l'autre côté, voilà. Des gentils et
victimes.
Des gentils victimes, voilà, noirs.
Ben, voilà, parce que, par exemple, un des articles, il voulait pas il voulait garder le monopole du commerce sur la côte. Il voulait pas que les Allemands fassent du commerce directement avec l'arrière-pays. Donc, il voulait être les seuls à profiter du business avec les Allemands et surtaxer donc se faire des bénéfices avec les gens de l'arrière-pays. Bon. Donc, il n'y avait pas forcément de solidarité, faut aussi le dire, hein. C'était pas un pays pour eux, hein. Ils étaient eux les chefs à Douala. L'arrière-pays, c'était pas leur pays, en fait, hein. L'idée du Cameroun, c'est une volonté allemande, hein, d'amener les autres à rejoindre ce territoire-là. Donc, évidemment, l'idée de Our Wishes, c'est d'abord, c'est-à-dire, vous entendez dans les commentaires, les Camerounais, enfin, ne sont pas comme les gens qu'ils ont vus au Gabon, en fait, ce qu'ils disent, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils surprennent, justement, les Allemands, hein. Ils surprennent parce que, bon, déjà, comme je dis, Auguste Maganoubé a déjà étudié en Angleterre. Hein. Donc, quand on parle de traité, même s'il n'est pas intervenu sur le traité, Maganoubé, les autres savaient déjà ce qu'ils voulaient, ils l'ont exprimé sur un document. Hein. Et je crois que le Cameroun a toujours gardé ce côté qui surprend d'ailleurs. Je crois que même avec la colonisation française, le Cameroun a surpris, même si le Cameroun n'était pas une colonie française en tant que telle, puisque c'était un territoire allemand.
Jean-Pierre Bécolo, Sophie parlait tout à l'heure de l'intérêt, hein, de revenir aux sources, de revenir vers cette histoire coloniale pour les jeunes générations. Moi, je me posais la question en voyant votre série, parce que les acteurs ne sont pas très âgés, mais ils sont pas tout jeunes non plus. Est-ce que ça a créé un débat? Parce que j'imagine que pour quasiment tout le monde, c'était une découverte, cette partie de l'histoire camerounaise. Donc, est-ce que ça a créé débat? Est-ce que les gens étaient surpris? Est-ce que les acteurs ou les techniciens, enfin les gens qui étaient sur le plateau, commentaient, vous posaient des questions? Comment ça s'est passé?
Bah, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a embrassé le projet, c'est-à-dire que nous n'avions pas d'énormes moyens. Hein. On a créé un village.
Oui, alors ça, on en reparlera justement.
Voilà. Donc, mais c'est de dire que nous sommes retrouvés, donc un peu comme ça, dans un groupe d'enthousiastes. Par exemple, Valérie Ndongo, qui est sur Canal+, qui fait le Comedy Club, en fait, s'est retrouvée à jouer le rôle d'Auguste Maganoubé. Donc, ce personnage, donc, qui est beaucoup plus, disons, profond et complexe que ce qu'il fait dans le stand-up. Donc, quelque part, il est, disons, un peu le lien, comme ça, entre les jeunes, hein, et puis, évidemment, les plus anciens. Et puis, bon, il y a des acteurs connus au Cameroun, qu'on a vu partout, comme Léo. Il y a quelqu'un comme Jacques-Greg Belobo, qui est plutôt un chanteur lyrique, qui décide, bon, voilà, je vais jouer le personnage des Lamé Joss. Bon, donc, c'est pour dire que les personnages, les acteurs, on les a un peu pris d'abord parce qu'ils étaient enthousiastes, mais surtout parce qu'ils nous permettaient comme ça de traverser toutes les générations et puis de présenter quelque chose, évidemment, qu'on créait, puisqu'on n'avait pas de référence, hein, on n'a pas regardé des films camerounais ou des choses qui nous ont inspirés. Ça, je peux dire franchement.
Oui, mais du coup,
nous étions un peu les pionniers.
Du coup, vous leur avez donné un cours d'histoire express?
Je pense qu'on se donnait, on se donnait tous. Non, on partageait l'histoire, hein, parce qu'il y a aussi une productrice qui est très impliquée, qui est du Cameroun, Augustine Mokodi, qui elle donc est de Douala et qui est déjà très intéressée par cette histoire-là. Donc elle travaille avec nous. Donc on était quand même plus dans une discussion où on découvrait les choses. Et puis Madame Oyono qui n'arrêtait pas de nous surprendre avec ses textes. Parce qu'elle n'était pas sur le tournage. Donc, chaque fois, on disait, est-ce que tu sais
vous l'empêchiez de venir?
Dans la page, est-ce que tu sais que sur telle page, elle dit ceci, il y a cette histoire-là. Bon. Donc, c'était comme un cours, vraiment, disons un atelier, hein, parce que c'était pas, il n'y avait pas un prof et les autres qui écoutaient. Nous avions tous le document. Donc, c'était l'idée, vraiment, de partager ensemble cette histoire-là.
Et vous disiez, donc, vous n'aviez pas un budget illimité. Ouais, c'est ça. comment ça s'est fait? Parce que vous tournez dans la jungle, quand même. Enfin, vous avez.
J'aime bien le terme jungle parce que c'est très exotique, donc c'est beaucoup plus rigolo que la forêt. Moi, j'ai passé une année en Allemagne, donc et après cette année-là, parce que j'étais ce qu'ils appellent l'artiste en résidence pour le DAAD, qui est une prestigieuse bourse qu'on accorde à des écrivains, artistes et tout ça, pour vivre à Berlin. Donc j'ai fait ça pendant une année, et c'est au sortir de ce séjour que je me suis dit, ce texte que j'ai depuis 2004 que Madame Oyono m'a donné quand je tournais Les Saignantes, il faudrait commencer. Et donc je me suis rappelé que j'avais un terrain qui, je peux pas faire d'agriculture, je sais rien faire, donc du coup je me suis dit on va faire du cinéma là-bas, donc à 40 km de Yaoundé, donc c'est la jungle.
Là, c'était et un peu la colonie de vacances, dit... alors.
Oui, oui, c'était ça qui était justement agréable, parce que bon, très peu parmi nous ont vraiment vécu au village. C'était une bonne expérience pendant 3 mois de vivre dans une espèce de dortoir commun comme ça, où on partageait tout. Et donc, du coup, la partie production qui n'avait pas forcément les moyens s'est retrouvée un peu atténuée, disons. Hein, et c'était plutôt agréable de faire cette expérience-là. Et disons, nous étions évidemment en production. Vous savez, si vous êtes dans la jungle, vous mangez les bananes, vous mangez des vipères qui sont prises au piège, vous mangez... Bref, du coup, le poids de la production s'est retrouvé allégé. Mais quand même, j'ai tiré une leçon. Je me suis dit, les Africains produisent mal les films. C'est-à-dire que le fait d'être à un endroit... qui n'est pas forcément la ville, parce que personne ne vous attend en ville, sortez une caméra à Yaoundé et la police vous arrête, tout le monde vous perturbe. Vous comprenez que produire en ville est vraiment aller contre nature, hein. C'est pas fait pour ça. Par contre, être dans la jungle, hein, on s'est retrouvé plutôt avec beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus fluides, même si nous avions d'autres difficultés liées à la logistique. Mais ce qui était important, c'est de voir comment on peut produire là où on est, hein, et surtout avec en trouvant un modèle économique un peu local pour tout ce qui était, disons, logistique. Voilà.
Et du coup, est-ce que cette série Our Wishes peut donner peut-être l'idée, l'envie à des cinéastes d'autres pays d'Afrique de se pencher à leur tour sur leur histoire, de faire une série historique ? Vous avez des liens avec d'autres réalisateurs ?
Bah, on n'a que ça. Nous sommes un peu... Je suis plus africain que camerounais, c'est-à-dire que le cinéma africain... m'a donné mon identité africaine, quelque part, puisque nous sommes à l'aise avec tous les autres cinéastes, les Baloufou, les Jihad El Tahari, les Serge Coelho, enfin bref, nous sommes une famille. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de choses en commun. Et je pense que, bon, d'ailleurs, il y en a qui ont déjà fait ça, mais pas en fiction, hein. Il y a beaucoup de documentaires historiques, hein, là-dessus, enfin, sur l'histoire coloniale. Mais ce que je pense, c'est que... ce serait pas mal, parce que l'histoire, juste pour prendre l'histoire du Cameroun, parce qu'on commence à, nous sommes en 1884 dans la série, et quand vous descendez en 1955-60, vous arrivez à l'histoire de l'UPC, dont les populations du Cameroun, et qui a mené une lutte armée, hein, qui, dont les leaders ont dû s'exiler au Soudan, au Ghana, au Congo, en Guinée, en Algérie. Enfin, donc, vous voyez qu'il y a d'ailleurs l'histoire
ça,
d'une
c'est...
dame que j'aime
ça,
beaucoup.
C'est... Ça, c'est la saison 8 est... ou 10, alors, c'est ça?
Ouais, c'est ça, peut-être. Parce que là, il y a beaucoup d'années à traverser avant d'arriver en 1850. Mais juste pour dire que oui, l'histoire africaine est super riche. Et il y avait vraiment cette idée du panafricanisme, puisque ces pays ont accueilli tous les militants qui étaient poursuivis dans leur pays. Donc, je trouve que naturellement, cette histoire doit sortir du Cameroun, parce que évidemment, nous avons perdu justement aussi par des nationalismes, des micronationalismes un peu si stupides. Nous avons perdu cette perspective-là. C'est-à-dire que si certains pays sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, parce qu'ils étaient en solidarité dans la lutte avec d'autres pays voisins.
Jean-Pierre Bécolo, avant de se quitter, est-ce que vous avez prévu une saison 2 de Our Wishes?
Bah, elle est tournée déjà, hein. J'ai même envie de dire saison 3, 2 et 3, puisque nous avons fait 18 épisodes qui sont terminés. Et je ne sais pas comment TV5 va les programmer, mais toujours est-il que les 18 épisodes sont terminés. Et bon, l'idée c'était de continuer quand même, parce que le traité va être signé. Et puis, il y aura beaucoup de troubles, hein, beaucoup de conflits encore. Les Allemands vont vouloir s'y installer. Ils ont envoyé un consul. Et à partir de ce moment-là, il y aura d'autres types de problèmes qui vont naître. Par exemple, quelle justice maintenant? Puisque maintenant, il faudrait bien que les Allemands commencent à appliquer leur justice, alors que les Douala ont l'Egbo ou le Ngondo. Donc maintenant, on va commencer à avoir d'autres types de conflits. Voilà un peu, évidemment, les Allemands partent en 1916. Hein, mais nous, je crois que on est à peine dans la première année de leur installation. Donc, entre l'installation des Allemands et leur départ en 1916, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vous savez, ici, les anciens ont toujours cette question en tête. Qui des Français ou des Allemands étaient les pires ou les meilleurs, colons.
Donc à suivre sur la série Our Wishes. Merci Jean-Pierre Bécolo. Our Wishes, qui est donc, en tout cas, les 10 premiers épisodes sont visibles en streaming gratuit sur le site de TV5 Monde. On se quitte en musique. On se quitte en musique avec Arlo Parks et Green Eyes. Cinéma du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous parlerons d'un autre pan du cinéma inconnu ou plutôt oublié. C'est Forbidden Hollywood, des films de l'âge d'or de Hollywood avant l'instauration d'un code de censure strict. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
So I know why we lasted 2 months. Could not hold my hand in public. Felt their eyes judging our love and baying for blood. I could never blame you, darling. Oh, 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 yeah. Some of these folks wanna make you cry. RFI.